Sylvia Houdard, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de bivouaquer sur les ondes de Grenouille à l'occasion de ton passage à Marseille pour Actoral, Festival des arts et des écritures contemporaines. Avant de donner à entendre les pièces que tu as souhaité partager avec nous pour ce bivouac, peut-être quelques mots pour faire connaissance avec toi et ton travail. Au début de ton parcours, la philosophie.
Oui, la philosophie et la littérature. J'ai fait des études assez classiques qui m'ont donné le goût des livres et seulement j'ai su assez vite que je me destinerais pas à l'enseignement, mais que on peut dire ce rapport aux livres, je le allait guider mon parcours et que je cherchais à vivre autrement les textes qui comptaient pour moi. Les transmettre autrement que par la voie de l'enseignement, autrement dit, de les incarner ou travailler avec des interprètes à l'incarnation de ces mots. Donc c'est parti vraiment sur un désir, on va dire, de théâtre, hein, sur un mode voilà qui s'est imposé juste à la fin de mes études, où j'ai proposé mes services à des metteurs en scène comme assistante. Et la position d'assistante à la mise en scène m'a ouvert d'autres perspectives qui étaient celles de travaux plus d'ordre davantage pluridisciplinaire, c'est-à-dire que le champ du théâtre, en fait, je l'ai ouvert à d'autres disciplines. Disons que j'ai profité de la scène ouverte par le théâtre pour inviter d'autres collaborateurs, à savoir des chorégraphes, des musiciens. Et mon premier projet était d'emblée très très pluridisciplinaire. Il s'agissait d'un spectacle autour de l'œuvre de Tinguely, pour lequel j'avais lancé une invitation à un musicien qui s'appelle Fred Bigot, Electronicat, et Sylvain Prunonec, que je retrouve là pour Effroi, à Montevideo, justement.
Tu viens d'évoquer le théâtre comme metteur en scène, comme auteur aussi parfois. Des collaborations avec Rodrigo Garcia, par exemple, ou avec Xavier Duringer.
Oui, des textes, disons que des textes de comme assistante, ouais. C'était le début, ça s'est passé en Suisse, ça. J'étais assistante à la mise en scène et débarquaient les textes de Duringer et de Rodrigo Garcia qui venaient d'être traduits en fait. Et la jeune scène suisse s'est emparée très vite de ces textes-là. Et voilà, moi j'étais assistante sur des projets où j'ai été au contact de ces écritures contemporaines et j'ai commencé à écrire moi-même en Suisse. Et je pense que la situation d'être en Suisse, à la fois dans ma langue et à l'étranger, a développé une écoute de la langue française, là en Suisse, où voilà, il y a des accents, il y a des usages différents de la langue française. Ça a développé en moi une écoute de ma propre langue, presque comme une langue étrangère, et je pense que ça a été le déclencheur d'un désir d'écrire. Et mon premier texte a été écrit pour un comédien suisse dans un squat à Genève.
Après la Suisse, la Provence, et plus précisément Avignon, puisqu'on a pu découvrir ton travail cette année à l'occasion du Festival d'Avignon, c'était autour d'un texte de Marie Dariussec.
Oui, ça c'est aussi le fruit d'une collaboration avec un designer et un musicien, Sébastien Roux et Olivier Vadreau, le designer, et d'une rencontre avec Valérie Dréville, autour d'un texte. Précision sur les vagues, qui est un texte très étonnant, qui a un destin étrange, qui était en fait des descriptions de vagues au sein d'un roman qui ont tellement gonflé qu'elles ont fait, on peut dire, craquer la narration. Et Marie Dariussec a consigné ces vagues dans un petit livre qui était distribué à part. J'adore ce texte qui est très étrange, qui est entre la leçon de choses et la fiction. Il n'avait pas un statut de texte de théâtre, il gagnait pas à être mis en scène, mais il avait une vocation à être dit et entendu. Donc on a imaginé à plusieurs un salon d'écoute en fait pour un texte mis en son, et c'est un polygone avec des petites alvéoles dans lesquelles le public entre pour écouter ce texte qui arrive par vagues successives. Voilà, on est comme sur une plage à entendre l'arrivée de sons qui arrivent et se télescopent comme des vagues sur un mode aléatoire.
Tu l'as évoqué tout à l'heure, ton parcours de création t'amène aujourd'hui à travailler de plus en plus transversalement, à avoir des créations qui sont d'ordre pluridisciplinaire. Qu'est-ce qui t'a amené à partir de l'écriture ou de la philosophie, comme on l'a vu, pour aller aujourd'hui à intégrer des éléments qui relèvent du geste, qui relèvent de l'image, qui relèvent du son?
Oui, je pense à un goût pour le vivant. Simplement. Je crois que la question de l'incarnation, on va dire après, dont on peut déplacer le curseur, voilà, incarner plus ou moins, mais incarner en tout cas des choses à dire, des choses, des gestes, des. Je crois que j'avais vraiment besoin d'injecter du sang dans, j'allais dire, du vivant dans un rapport au livre, voilà, c'est comme un pont entre ma bibliothèque et la scène, et qui a été rendu possible par des rencontres, hein, en fait, avec des interprètes et des collaborateurs, plasticiens, chorégraphes. Voilà, c'est une sorte de devenir autre du livre, en fait. Enfin, une espèce de destin singulier réservé à certains textes. Voilà, et parfois certains textes ont donné lieu à des spectacles où il y avait quasiment plus un seul mot, mais le point de départ était vraiment un rapport au langage très fort. Je fais un spectacle autour de l'œuvre de Pavese qui ressemblait finalement à un grand concert. Il s'agissait de sons, mais qui avait été généré par un contact, une fréquentation longue d'un texte, voilà.
Célia Oudard, on est ravis de t'accueillir pour la première fois sur les ondes du 88.8, mais pour autant, je pense que c'est pas ta première expérience avec le média radiophonique.
Oui, j'ai un goût prononcé pour la radio. On m'a proposé l'année dernière un Surpris par la nuit, une sorte de carte blanche sur France Culture autour de la question de l'ombre. Je trouve que c'est un espace de création unique où le rapport au temps est tout à fait singulier et où la question de la voix évidemment est centrale. Et je pense que c'est un laboratoire, même pour des gens qui ne sont pas de la radio, qui est vraiment très précieux. Et je suis même sûre que mes expériences radiophoniques ont infléchi mon écriture.
Parlons un petit peu, si tu veux bien, de ce que tu vas nous donner à entendre, des éléments sonores que tu m'as fait parvenir. Peut-être pour commencer, quelques mots sur la règle du jeu que nous nous sommes donnés.
Oui, comme j'étais pas sur place pour mener à bien ce laboratoire avec vous, j'ai plutôt choisi d'envoyer des éléments en jouant sur l'arrivée justement aléatoire, sur les effets de hasard produits par la poste. Donc c'est comme si j'avais fait une sorte de liste de sons. Il y a des pièces de moi, des pièces de collaboration, de la musique que j'écoute aussi. Et c'est comme si j'avais mis le mode, je sais pas, shuffle ou aléatoire sur mon lecteur de CD. Voilà, donc c'est comme un jeu de combinatoire.
Et est-ce que tu aurais envie de donner un titre à ce mix?
Marseille Mix.
Marseille Mix. On l'écoute.
Le 14 juillet à 18h30 à Avignon, les rayons obliques du soleil étaient encore très intenses. Les premiers spectateurs arrivaient, se jaugeaient. Des hôtesses distribuaient des éventails noirs en plastique sur lesquels était écrit France Culture en rose. Presque tout le monde en prenait. C'était dans la cour du musée Calvet, un hôtel particulier du XVIIe siècle où poussent des platanes centenaires. Contre la façade avait été montée pour l'occasion une scène grande comme un parquet de bal. Il y avait une table assez petite au centre, une chaise, un micro sur pied et des enceintes. Les pierres de taille de la façade de l'hôtel particulier étaient très réverbérantes. Je n'ai eu une telle sensation de lumière blanche qu'à la montagne dans les vieilles ferrates et des Dolomites. La lecture était présentée par Laura Adler et Bernard Comand. Laura Adler était en jean et haut très léger avec une drôle de coiffure. Je me suis dit qu'elle devait avoir des problèmes avec ses cheveux. Bernard Comand, lui, était rouge comme les gens à la peau claire qui, au premier jour d'été, prennent tout de suite un coup de soleil. Laura Adler est venue sur le plateau. On sentait que c'était important pour elle d'être là à ce moment-là, que c'était la lecture où il fallait paraître. Elle a annoncé que Christine Angot allait lire des extraits de « Pourquoi le Brésil ?» dans une mise en espace d'Éric Lacascade. Les techniciens de la radio étaient derrière le public au pied d'un platane, casque sur les oreilles, dans une forêt de câbles, on ne les voyait presque pas. Le grand chauve, très discret, assis sur la droite à distance du public, c'était Éric Lacascade. Vu de la scène, ce devait être étrange, tous ces visages qui se protégeaient derrière des éventails. Christine Angot est entrée. Elle portait des sandalettes noires fines, un jean, une chemise noire. Elle s'habille toujours de la même façon. On ne sait pas si c'est par commodité, stratégie médiatique ou extrême élégance. Elle a traversé le plateau en venant de l'extrême fond à droite. Elle avait l'air décidée. Elle s'est assise. Elle tenait son livre ouvert d'une main. Dès qu'elle a commencé à lire, on comprenait que l'autre main lui servait pour engager son corps et respirer. Elle nous regardait à peine, mais sa lecture était très adressée. La force passait par le front, la naissance du cou, les os de la clavicule. La lecture métamorphosait la perception qu'on avait des choses. L'espace, la lumière, le temps. On oubliait les gens qui se jaugeaient, les éventails noirs France Culture, la régie, Laura Adler. Christine Angot a lu assise, puis s'est levée, une main appuyée contre la table, de profil, comme un acteur en train de mémoriser à voix haute son texte. Elle a lu des lettres de son père qui lui étaient adressées quand elle s'appelait encore Christine Schwartz. Elle habitait à Châteauroux, elle peinait sur la forme Zum et les verbes irréguliers allemands. On ne savait plus s'il s'agissait d'archives familiales ou d'une fiction. La table où Christine Angot lisait avait un poids, une épaisseur insoupçonnable. La couverture, la tranche, la colle de la reliure, les pages tournées, les coins pliés, le livre comme objet, tout prenait de la densité. la fin de la lecture, le public n'a pas applaudi tout de suite. C'est Bernard Comment qui, apparaissant, a provoqué un mouvement. Jacques Roubaud, lui, n'a eu personne pour l'accueillir. Ni Laura Adler, ni Bernard Comment. Il a dû se débrouiller tout seul, avec un vent fou tourbillonnant dans son micro. C'est lui-même qui a dit « Je vais lire Churchill 40 et autres sonnets de voyage 2000-2003 ». Il portait des chaussures de marche, un pantalon beige, une chemise à carreaux. Il regardait le ciel et le mouvement des branches d'arbres pour savoir si le vent allait souffler comme cela tout le temps. Il y avait moins de monde que pour Christine Angot. Une assemblée de timides qui lisent plusieurs fois de suite le programme pour ne pas en perdre une miette. Les feuilles des platanes volaient, il y avait de la poussière, on se frottait les yeux. C'était le 23 juillet à 18h30. Malgré la bonnette, le vent dans le micro produisait des sons parasites. Roubaud regardait d'un air interrogateur les techniciens de la radio, et il a lu malgré tout. Cela semblait même l'amuser de lutter avec les éléments. Cela allait avec sa poésie et son allure de randonneur qui scrute le ciel pour se faire une idée de la météo. Il a parlé d'aéroport, du sentiment des choses, d'attente, de pancakes au sirop de fruits rouges de la côte ouest des États-Unis, de nuages vus depuis un hublot, de tapis roulants, du mont Fuji, dont un jeune poète lui avait dit sur une carte postale écrite depuis un train rapide japonais qu'il n'existait pas. Jacques Roubaud a parlé de tours de verre, d'avenues, de miroirs, de limonade au sureau. Il a expliqué qu'il avait débaptisé son recueil après le 11 septembre parce que le titre primitif parlait des tours et qu'il trouvait cette référence indécente après l'attentat. J'avais déjà entendu Jacques Roubaud dans le jardin d'un petit musée derrière le Luxembourg à Paris. C'était aussi à l'ombre d'arbres, mais sans le vent d'Avignon. Le vent qui ce jour-là poussait Jacques Roubaud à projeter sa voix, à légèrement surarticuler, de sorte que quelque chose dans les mots vibrait. Leur enveloppe au contact de l'air. Je pensais au fuselage d'un planeur.
Était parvenu à déraciner le grand séquoia de la promenade du rivage. Claire avait expliqué à Igor que dans les heures qui suivirent l'orage, les jardiniers de la ville avaient déjà presque entièrement débité l'arbre en rondins, transformant le parc en scierie improvisée. C'est à l'ombre de ce grand séquoia qu'Igor avait découvert dans les collections photopoche les œuvres de Man Ray, André Kertész, Alfred Stieglitz. L'imposante souche terreuse offrait sa chevelure noire au lac. Un ruban de plastique rayé rouge et blanc empêchait qu'on s'en approchât. Un ruban de plastique rayé rouge et blanc empêchait qu'on s'en approchât. Un peu plus loin, sur la droite, s'élevait un bâtiment des années 70, un théâtre de verdure tout en béton, dont le plafond présentait les mêmes lamelles et le toit la même courbure qu'un chapeau de champignon. Très exactement une russule coupée en deux. Tout était couvert d'un épais tapis de feuilles, de copeaux, de bouts d'écorce et de branches mortes qui conférait à l'édifice le charme décalé d'une église norvégienne à la toiture végétale. Igor s'allongea dans le canapé de son salon, il posa ses mollets sur l'accoudoir, les pieds suspendus dans le vide. Il remarqua juste au-dessus de son épaule, sur le dossier du canapé, une minuscule coccinelle. Ses élytres à demi déployées et leurs battements légers donnaient à l'insecte l'aspect d'un point or rouge et noir clignotant. Il se revit enfant chez sa grand-mère, chassant d'une légère pichenette deux ou trois coccinelles posées sur la feuille d'un rosier et suivant du regard leur vol un peu lourd et leur trajectoire incertaine. Il se redressa, poussa les persiennes et fit brusquement rentrer le soleil dans la pièce. Il s'aperçut que depuis presque deux jours, il marchait sur un carrelage et un parquet incrustés de très fins éclats de verre. Voilà, c'était un extrait des Merveilles du Monde, un roman qui est sorti l'année dernière chez POL.
Mais la baïne rompt l'équilibre. Elle pompe l'énergie des vagues, elle les aspire au défaut de leur arc, là où elle se brise.
Car il faut bien comprendre que la vague ne se brise pas à grande hauteur,
mais aussi invisible. Dans le dessous de l'eau, la baïne se gorge d'eau vive. Si l'on enfile un masque
et que l'on renverse la veine, l'on plonge à ses fonds,
alors on voit la vague
à l'envers,
l'autre moitié de son enroulement. La baïne, collée à la vague, en absorbe la chute et s'élargit, s'étale. Le bord de la baïne est joyeux. Les rouleaux tenus à distance n'effraient plus. La baïne respire doucement. Elle s'apprête. Ça commence sans bruit, sans même une ride. Au changement de marée, la baïne se vide. Il ne se forme aucune vague, sinon une vague intérieure, une aspiration. La masse bascule et prend son élan. La douce sensation autour des membres se fait plus pressante. On est tiré en arrière et alors cela va très vite.
Les enfants sont entraînés.
La baïne s'effondre sur elle-même.
C'est au large que sont déjà les enfants. Le grand courant né des marées les emmène au centre de la mer.
Là où tournoie le grand siphon.
La naissance d'un livre se produit comment chez vous ? Par un personnage ou par un climat ou par une...
C'est assez curieux.
Détail.
Écoute, je vais essayer de me souvenir parce que là, il faut que je joue le jeu très honnêtement et que j'essaie de me souvenir parce que te dire là d'une façon très habile comment ça se produit, ça serait une malhonnêteté car très certainement, je n'en sais rien sur le moment. Il y a avant l'écriture du livre une très longue et indéfinie période de gestation dans lequel quelque chose existe ou quelque chose n'existe pas, on ne sait pas très bien. Ça n'est rien, c'est un ouï-dire, une espèce de vent dans lequel on entend des fois une parole, des fois un geste, des fois une mèche de cheveux, des fois un son de voix, ou une démarche, le bruit d'un pas dans un couloir. C'est un personnage ou ça n'est pas un personnage, c'est peut-être le père du personnage, c'est peut-être quelqu'un qui mourra avant que le personnage soit né, c'est peut-être lui le personnage, je n'en sais rien. Mais brusquement, un beau jour, ce personnage est né sans que je m'en rende compte et il est arrivé, il est venu, il est là, il est présent. Il est présent, mais il n'y a pas de livre, il n'y a pas de... Il est présent, mais il est présent comme est présente cette statue ou comme sont présents les livres qui sont là dans ma bibliothèque. Mais il est là. Il existe, il a une forme. Et cette forme continue à me suivre et à habiter avec moi pendant très longtemps, pendant des années, pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, pendant lesquels j'écris d'autres livres. Constamment avec cette espèce de petite présence qui se précise de, non, je ne dirais pas de jour en jour, mais de minute en minute, peut-être même de seconde en seconde, étant donné que les précisions que ces secondes m'apportent sont extrêmement minuscules. C'est-à-dire que je verrai par exemple un bouton de son gilet, puis très longtemps après je verrai le deuxième bouton de son gilet. C'est-à-dire que ce personnage est à la fois un tout petit personnage et une espèce de géant prodigieux dont la tête se perd dans le nuage, que je ne vois pas. Puis un beau jour il devient de forme plus concrète, et puis je vois la forme et la couleur de son gilet, puis je vois la façon dont il s'habille, puis je vois non seulement la façon dont il s'habille, mais la façon dont il se comporte avec un autre personnage qui lui arrive presque tout de suite, parce que c'est un personnage secondaire. Alors celui-là étant motivé par le premier, celui-là arrive beaucoup plus vite. Quand un certain nombre de ces personnages sont arrivés de cette sorte, eh bien ils gambadent autour de moi, et ils s'amusent autour de mon bureau avec les meubles, avec les choses, ils traversent la bibliothèque, ils sortent, ils rentrent, ils font tout un tas de trucs, pendant que je continue, moi, à écrire le roman de personnages beaucoup plus accusés, beaucoup plus formés, qui sont l'armature et les personnages du roman que je suis en train d'écrire. Les autres sont toujours arrière-plan, là-bas, ils gambadent. Et puis un beau jour, même parfois, pendant que je suis en train d'écrire un autre livre, ils se précisent et ils ont envie de jouer un rôle. Devant moi, il y a une espèce de grande carte blanche de terres inconnues, et au milieu de ces terres inconnues, un cavalier visible, par exemple, pendant un cavalier visible avec son cheval, il est là, je le vois. Je ne vois pas ce qu'il y a autour, je ne vois rien. Et petit à petit, des tâches vont se préciser, puis le paysage va venir. Alors là, le paysage va venir. Ce paysage est fonction de quantité de choses. Le paysage est fonction de tous les voyages que j'ai faits pendant la gestation de ces personnages. Le paysage est fonction parfois de sons, de musique, parfois de conversations, parfois de rencontres. Parce que un personnage que je rencontre ne créera pas automatiquement un personnage dans mon livre, mais créera peut-être un paysage dans mon livre. De même qu'un paysage entrevu créera peut-être un personnage. C'est une espèce de mélange anthropomorphe dans lequel tout est mélangé, dans lequel le paysage est parfois motivé par un personnage, le personnage est motivé par un paysage. Les sons produisent des couleurs, les couleurs ont produit des formes, les formes ont produit des sons, tout ça est mélangé, c'est une espèce de pandémonium qui n'est pas encore coagulé et qui doit être semblable, j'imagine, à ce qui se passe dans la chrysalide du papillon un peu avant que le papillon sorte. Tout étant mélangé dans une espèce de liquide, de sans couleur, informe et démoniaque. Puis brusquement, là-dedans, la coagulation se produit et toute une partie du livre s'écroule. C'est-à-dire, quand je dis s'écroule et se construit. C'est-à-dire que toute cette partie de livre entre brusquement, comme s'il s'écroulait, dans ma vie matérielle, et se construit. Toute une partie de cette architecture se construit devant mes yeux. À ce moment-là, le livre est presque fait. Je dis à moi-même qu'il est presque fait, et je dis à mes amis, il n'y a plus qu'à l'écrire, et en effet, il n'y a plus qu'à l'écrire, mais assez souvent, il faut que je finisse d'écrire le livre que je suis en train de faire. Alors ce livre, tous ces personnages et toute cette construction se retirent comme si quelque chose les attirait en arrière pour me laisser le temps de finir le livre, se retirent en arrière, mais le grave, c'est qu'ils ne se retirent pas en arrière comme des mannequins de cire et comme des décors de théâtre, mais ils se retirent en arrière comme des décors vivants et des personnages vivants, c'est-à-dire qu'ils continuent à vivre. Alors, je continue à écrire mon roman tout en gardant un œil sur ce qu'ils sont en train de faire de l'autre côté.
C'est un peu l'histoire de Noé, ça.
C'est ce que j'ai décrit dans Noé. Très exactement, j'ai voulu décrire...
Dès le début de Noé, vous reprenez la fin d'un roi sans divertissement.
C'est exactement ce que j'ai
Madame
essayé
Tim,
de,
je crois.
Oui, c'est exactement ce que j'ai essayé de décrire dans Noé. Et c'est le roman du romancier.
Le roman du romancier.
Le roman du romancier, généralement, à ce moment-là, alors, tous ces personnages sont, et tous ces paysages sont à l'arrière de moi, pendant que je suis en train de finir d'écrire celui que je suis en train d'écrire. Tous ces personnages à l'arrière ont leur vie personnelle, et je les arrête de temps en temps, j'essaye de les arrêter, je sais, parce que parfois je n'y arrive pas. J'essaye d'arrêter leurs gestes, mais ils continuent, mais je les note. Je les note dans ma mémoire.
Parce que précisément, est-ce que la mémoire joue chez vous un rôle aussi...
très important.
Précis mais... que chez Proust, avec son histoire de tasse de thé,
oui,
qui lui
restitue
tout congrès.
Oui, mais ça, je crois que c'est chez tous les romanciers. Seulement, le phénomène que je vais te décrire est beaucoup plus important, c'est celui-ci, c'est que jusqu'à maintenant... D'après ce que je viens de dire, nous avons à l'arrière-plan une histoire qui a l'air d'être complètement faite. Des personnages complètement, dont les formes sont complètement arrêtées et dont les caractères sont parfaitement finis. Il le semble. Mais au moment même, alors, où je prends la plume, bien, je dis bien la plume, et je dis la plume parce que c'est le côté matériel de la chose qui importe, où je prends cette plume matérielle, où je la trempe dans de l'encre matérielle et je commence... La première phrase qui est le style, à ce moment-là, tout s'effondre, tout s'obscurcit, tout disparaît, et il ne reste plus que le personnage qui prononce la parole que je suis en train d'écrire, ou qui fait le geste que je suis en train de décrire. Et à partir de ce moment-là, tout va se reconstruire dans un ordre qui sera tout à fait différent de ce qui a été construit jusqu'à maintenant.
Je voudrais savoir si la vie vous a fourni une fois un personnage... Ou si au contraire tous vos personnages ne sont sortis que...
Bon, alors tu me demandes si mes personnages ont été une fois véritables.
Oui.
Non, jamais.
Jamais.
Jamais dans leur ensemble, c'est-à-dire jamais dans leur intégrité, c'est-à-dire un personnage n'a jamais existé tel que je l'ai écrit. Ils ont toujours été inventés, composés par des milliers d'autres personnages que j'avais vus, mais jamais tel que je les ai écrits. Jamais personne. Et aucune des histoires que j'ai racontées n'a existé. Aucune.
Still young, I'm still naive, and I know that you know I don't know much about the industry, and I don't trust you yet, so don't expect me to eat, cause I'm so tired never being taken seriously, can't be doing with wasting time, what am I doing with my life, you need to find your own peace of mind, everybody knows that you're a posh girl, cause when it comes to cockneys, you're down on your knees. And everybody knows you're fucking intelligent, so why do you feel the need to plead?
Thank you.
D'écouter Marseille Mix, une proposition de Célia Oudard. Célia Oudard, peut-être quelques mots pour conclure sur ta présence à Marseille. Pour l'instant, nous sommes au téléphone. Ces sons, tu me les as fait parvenir à distance, mais tu vas être bien présente à Marseille à l'occasion d'Actoral pour une lecture. C'est le 8 octobre à 19h30. Qu'est-ce que tu vas lire ?
Je vais lire un texte qui s'appelle Deux Vallées, qui est justement une pièce qui a d'abord été une pièce destinée à la radio, que j'ai conçue avec Lionel Quentin. C'est une chose qu'on a fait dans sa cuisine. C'est quelqu'un qui fait des sons, qui est réalisateur pour France Culture, mais qui avec qui j'ai fait plusieurs collaborations. C'est vraiment un laboratoire complètement libre et qu'on a voulu faire entendre à la CR. Et il a été pris et diffusé en deuxième partie d'un ACR il y a 2 ans et en face B d'un ACR. Sont des notes sur un enfant à la campagne, sur la découverte de sons et de matière. On peut dire que c'est je sais pas si c'est la fin de l'enfance, mais en tout cas c'était un moment de passage dans l'enfance et d'initiation. Voilà, une initiation par la nature pour un enfant qui grandit.
Un moment de passage. Merci Célia Oudard de ton passage sur les ondes de Radio Grenouille. Et avant de se quitter, si les auditeurs souhaitent prolonger cette expérience pour retrouver d'autres aspects de ton travail, où est-ce qu'ils peuvent le faire ?
Eh bien, je présente justement Précision sur les vagues, cette installation créée à Avignon, au Centre dramatique national d'Orléans en ce moment. C'est en 2 temps. Le deuxième temps sera du 14 octobre au 24. C'est dans la salle d'exposition du CDN d'Orléans, toute la journée, entrée libre. Et ensuite, on ira au CDDB de Lorient ce printemps. Et il y a une option pour la Fondation Cartier, mais voilà, c'est pas encore. Les dates ne sont pas encore définies, mais c'est une installation qui tourne c'est l'actualité de mon travail en ce moment.
Et pour retrouver à tout instant l'actualité de ton travail, tu as un site internet ?
Oui, voilà, que j'essaie de mettre à jour. Et c'est celiaoudard.com.
Merci Célia. La 7e édition d'Actoral, Festival des arts et écritures contemporaines, se poursuit à Marseille jusqu'au 11 octobre. Toute la programmation est détaillée sur le site www.actoral.org.